Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre-Dame du Travail, je vous offre et vous consacre mes tâches quotidiennes et celles de tous les hommes. Dans la nuit du calvaire, ô Mère, s'accomplit la prophétie de Siméon. Debout au pied de la croix, vous ne pleurez pas sur vous, mais sur votre Fils qui porte le poids du péché des hommes. Et toutes les violences du monde sont dissoutes dans vos deux cœurs transpercés. Mère de douleur et mère de miséricorde, je vous offre les appels et les tourments des personnes blessées ou épuisées par le travail, des personnes humiliées, ignorées, rejetées ou désespérées, qui sont accablées par un travail dégradant, qui sont victimes de mépris ou d'injustice. Sauvez ceux qui fuient la réalité en se noyant dans le travail, et encourager ceux qui n'osent pas ou qui ne veulent pas travailler. Vierge puissante, apaisez les conflits et les tensions du monde du travail. Notre-Dame du Travail, priez pour nous. Voilà, alors, la 7e conférence sur la spiritualité de Notre-Dame du Travail, puisque nous prenons à chaque conférence une journée, enfin une prière dans l'ordre de la neuvaine à Notre-Dame du Travail, donc il y en a 9. Il restera ensuite 8, le travail au soir de la vie, pour les retraités et ceux qui... Et puis le travail et l'Eucharistie, 9e jour, c'est un peu la clé. Et puis nous reprendrons... La conférence sur le travail quotidien pour reprendre vraiment dans la lumière de notre âme du travail. Alors aujourd'hui, les blessures, le travail et ses blessures, c'est un vaste... Si on interrogeait, je sais pas si on interrogeait un peu les uns et les autres, hein. Les blessures du travail sont multiples. Mais je voudrais reprendre un peu plus profondément, un peu plus à l'origine. N'attendez pas de moi ou dans ces conférences-là une... Alors voilà. On commence à peine. Mais on commence à peine. Pauvre, vous avez couru. Hein. Pauvre. N'attendez pas de moi, je dis ça à chaque fois, des conférences bien ficelées, bien. D'abord parce que j'ai pas le temps et ensuite parce que j'ouvre des portes. Et moi-même, je vous présente un peu des brouillons. Je vous présente un peu des pistes de recherche. En fait, je cherche à droite et à gauche, mais je pense que... Enfin, je ne sais pas. Si vous connaissez quelque chose, je ne suis pas sûr qu'un travail ait jamais été fait là-dessus, sur ce que la Vierge Marie a à nous dire du travail et de ses différentes facettes. La doctrine sociale de l'Église, bien sûr, des considérations sur Saint Joseph travailleur, bien sûr, mais ce que la Vierge Marie apporte à cette spiritualité du travail, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu quelque chose de systématique là-dessus. Du coup, j'ouvre des portes et j'ai conscience que ces portes sont encore très imparfaites, mais je les ouvre pour le futur et pour développer ce travail par la suite. Alors, à propos de la peine du travail et des blessures du travail, je voudrais d'abord reprendre à l'origine. Parce que il y a énormément de gens qui croient que le travail est une conséquence du péché. Parce que tu as péché, tu vas voir, tu vas travailler, puis ce sera dur. Et en fait, c'est une conception complètement fausse, si on regarde la Genèse de près. Le travail est même la première dimension de la ressemblance de l'homme avec Dieu. Il y a 3 grandes ressemblances de l'homme avec Dieu. Premièrement, 3 actes de l'homme. L'homme ressemble à Dieu par 3 actes principaux. Premièrement, le travail. Deuxièmement, la connaissance. Troisièmement, l'amour. Et le travail apparaît comme la première dimension de la ressemblance de l'homme avec Dieu. Dès que Dieu a créé l'homme, le 6e jour... Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Je suis au 2e chapitre de la Genèse, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Donc, ça, c'est. Soumettez-là, c'est ce mot très vaste qui est, que les théologiens essayent de développer beaucoup. Soumettez-là, c'est un mot qui n'est pas pour la dominer comme nous avons la conception de la domination. Soumettez-là, ça veut dire conduisez-la. Ça veut dire je vous la confie. Je vous la confie pour la perfectionner. Pour la création de Dieu n'est pas parfaite, elle n'est pas finie. Et Dieu la confie à l'homme pour que l'homme coopère à l'œuvre de la création de Dieu. On dira dans le jargon de la théologie, de la doctrine sociale de l'Église, que l'homme est co-créateur. Il n'est pas créateur parce qu'il ne crée pas de matière. Dieu crée à partir de rien, il crée la matière. L'homme ne peut pas créer la matière, ça n'existe pas. Mais l'homme crée des formes nouvelles dans la matière. Et ça, c'est une des dimensions qui le fait ressembler à Dieu et qui le différencie de tous les autres êtres vivants. Les autres êtres vivants ne travaillent pas au sens où ils n'inventent pas, ils ne créent pas des formes nouvelles. Et on pourrait dire, mais les fourmis, ça travaille, ça travaille sacrément les fourmis, un travail de fourmis. Hein. Mais les fourmis n'inventent rien. Elles font ce pour quoi elles sont faites. L'araignée, elle tisse sa toile, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais la toile est toujours la même, elle est toujours tissée de la même manière, et à chaque espèce d'araignée correspond une espèce de toile. Il y a des singes extraordinaires qui, avec des cailloux, arrivent à casser des fèves et des machins, des noix pour les manger. Donc on peut dire qu'ils, d'une certaine manière, ils travaillent. L'écureuil qui remplit sa cachette de noix, noisettes pour passer l'hiver, il travaille. Mais c'est un travail que moi, chaque fois que je vais dans les îles, je suis émerveillé de ces oiseaux qui tissent les nids, leurs nids. Un nid accroché aux branches, et alors ils prennent des grandes herbes dans leur bec et puis ils tissent le machin. C'est extraordinaire à voir. Mais c'est toujours le même nid qu'ils tissent. Ils n'inventent pas de formes nouvelles. Ils ne créent pas de formes nouvelles. Tandis que l'homme, l'homme artisan qui crée un outil, et on voit le développement des outils au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, l'homme qui l'architecte qui crée des maisons, qui crée des formes extraordinaires, alors que dire des artistes, le musicien qui crée des harmonies dans des sons, le peintre qui crée des associations de couleurs, c'est extraordinaire de voir le travail de l'homme. Le travail de l'homme, c'est quelque chose qui a grande ampleur. Les moines du Moyen-Âge qui ont domestiqué la nature, qui ont domestiqué les forêts, qui ont assaini les marécages pour cultiver la terre, c'est formidable. Et au fond, la première grande caractéristique de l'homme qui ressemble à Dieu, c'est cette capacité qu'il a à coopérer à l'œuvre de la création en transformant, en perfectionnant la création, la nature, l'univers. Le deuxième, alors pour mémoire, le deuxième acte de l'homme, c'est la connaissance. Dieu fait défiler devant l'homme tous les animaux de la terre, les animalia, les êtres vivants, et l'homme nomme chacun des animaux. C'est-à-dire l'homme a cette capacité de connaissance et le fait de nommer, il a cette supériorité sur tous les êtres vivants parce qu'il est capable de les nommer et leur donner un nom. C'est donner un nom à une réalité vivante, c'est dire le dominium, la supériorité que j'ai sur lui. Et cette connaissance est une connaissance abstraite, parce que l'homme ne connaît pas seulement le petit chien mémé, il connaît aussi le chien de garde, et l'homme est capable de dire un chien, voilà ce que c'est. Il voit à travers plusieurs espèces, il est capable de dégager un abstrait. L'homme est capable de réfléchir sur l'humanité. Professeur Lejeune, autrefois, disait toujours « On a vu souvent des hommes s'asseoir en rond pour réfléchir sur l'humanité. On n'a jamais vu des singes s'asseoir en rond pour réfléchir sur la singitude. » Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. La singitude, ils s'en foutent. Ils connaissent maman singe et bébé singe. Mais ils ne connaissent pas la réalité abstraite, le concept du singe. Et donc la connaissance de l'homme, qui est une connaissance conceptuelle, qui va toucher à l'esprit, et qui est capable de contempler la vérité, de découvrir la vérité, de chercher la vérité, et les différentes harmonies de la vérité, dans la beauté, dans les formes. Je raconte tout ça, je raconte souvent pour expliquer ça, quand vous mettez Vous connaissez Vézelay, la basilique de Vézelay, là, oui. C'est une des plus belles œuvres d'art qu'on a en France, qui est, avec cette harmonie extraordinaire, exceptionnelle entre le roman et le gothique, qui fait une harmonie de lumière. Je ne sais pas si un jour on avait fait une sortie paroissiale à Vézelay, vous vous rappelez, le 21 juin. Et le 21 juin, pour le solstice d'été, il y a l'alignement des lumières dans l'allée centrale. C'est quelque chose de phénoménal. C'est la perfection de l'architecture qui... Bon, vous mettez à l'entrée de Vézelay, au petit matin, vous mettez un homme sans aucune éducation, un homme frustre, un homme vraiment le plus basique que vous trouvez, et puis vous mettez à côté de lui le chien le plus intelligent du monde, qui est bien dressé, tout ce qu'on veut. Bon, et puis vous ouvrez devant les deux, là, vous ouvrez les portes de Vézelay. Et l'homme le plus basique, le plus frustre, il fait... Il est saisi par la beauté, par l'harmonie, par les formes. Le chien, il bat de la queue, il va pisser contre la colonne, il n'a rien vu, il s'en fout complètement. Vous voyez, l'homme touche à la beauté, la beauté touche à la vérité, il y a toute cette connaissance spirituelle. Et c'est la deuxième dimension de la ressemblance de l'homme avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme a cette capacité de connaître et de connaître pour aimer. La connaissance du cœur, hein, je dis toujours, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté sont très très liées, parce que connaissance et amour sont très liés, mais ça c'est bon, c'est un autre sujet, je ne veux pas entrer trop là-dedans, mais pour mémoire. Et puis le troisième acte de l'homme, c'est l'acte d'amour, la communion d'amour. Dieu vit que l'homme était seul, et l'homme, en nommant tous les animaux de la terre, l'homme n'avait pas trouvé d'aide qui lui soit assortie, d'aide qui lui corresponde. Et l'homme découvre qu'il a besoin d'un vis-à-vis, et l'homme donne à la femme à l'homme. Il fait tomber l'homme dans un profond sommeil, et il tire de la côte d'Adam la femme pour la présenter. Et là, ce coup-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair pour sa femme, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, il y a une découverte de cette communion, une découverte du vis-à-vis. Et le troisième acte de l'homme, c'est l'amour. Le pape, notre cher Jean-Paul II, disait « On devient une personne humaine dans le don réciproque de soi. » Ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait ça. Voilà, les trois grandes dimensions, les trois actes par lesquels l'homme est à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu a ces trois actes qui n'en font qu'un en lui, c'est son acte d'amour, l'amour dans la Trinité. Dieu est amour, c'est comme une espèce de concentration de ces trois actes en un seul. Mais que pour Dieu, connaître, aimer, créer, tout ça c'est la même chose, c'est un seul et même acte. Tandis que pour nous, c'est successif, on peut analyser tout ça. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que le péché, c'est le renversement de ces trois actes-là. Si je voulais résumer le péché en un seul mot, le péché, c'est prendre au lieu de donner. J'ai voulu garder pour moi au lieu de rester dans cette ouverture et ce vis-à-vis et cette connaissance. Au fond, le péché, selon les trois dimensions, premièrement, dans le domaine du travail, le péché a consisté à vouloir exploiter la nature au lieu de coopérer à l'œuvre de Dieu. Quand j'exploite la nature, ben ça me retombe dessus, j'ai perdu la maîtrise. C'était d'ailleurs un des grands chapitres dans Réflexion de Jean-Paul II, dans une de ses premières encycliques, la première encyclique d'ailleurs, le Christ rédempteur de l'homme, où Jean-Paul II remarquait que une des grandes angoisses de notre temps, c'est que l'homme prend conscience qu'il a déclenché quelque chose dans la nature qui ne s'est pas arrêté. C'est une espèce d'immense vertige de l'homme qui dans sa manière d'exploiter la nature, a fait un espèce de renversement. La nature lui retombe dessus et l'univers est devenu une menace. Vous voyez, entre les moines du Moyen-Âge qui domestiquent les marécages et les forêts pour faire des cultures, et les cultures intensives qu'on voit encore aujourd'hui dans certains coins de Russie ou des États-Unis, sans aucune espèce de notion d'écologie, on exploite pour le rendement et l'efficacité. Mais en fait, la nature se venge. Et aujourd'hui, on sent très bien, d'ailleurs, il y a une prise de conscience très très forte dans notre monde aujourd'hui sur le fait que on se demande si c'est trop tard, quoi. On se demande si c'est pas trop tard, parce qu'on a déclenché des phénomènes qui sont qui retombe très gravement sur l'homme. Deuxième renversement, c'est le renversement de la connaissance. Au lieu de connaître pour mieux aimer, la connaissance était au service de l'amour. J'ai cherché, au contraire, à aimer pour mieux connaître. Et connaître, c'est dominer d'une certaine manière. J'ai voulu connaître pour dominer. Et pourquoi est-ce qu'on est si avide des informations ? J'ai besoin de connaître l'information en premier. Pourquoi ? Parce que c'est par l'information que je peux dominer. Ça donne du pouvoir, ça donne du. C'est une manière de dominer que de savoir avant les autres. Et en fait, c'est une forme d'orgueil, c'est une forme de. Alors aujourd'hui, il y a une espèce d'emballement de ce phénomène qui retombe là encore contre l'homme, parce qu'il y a une tyrannie de cette connaissance pour la connaissance qui pervertit cet acte de connaissance qui est la contemplation de la vérité. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de vérité. Enfin, il n'y a plus de vérité. Elle existe toujours, la vérité. Mais Dieu est vérité. Mais quel que soit le discours politique que vous entendez, même d'ailleurs, quelquefois, des discours dans l'Église, chacun sa vérité, chacun... Mais non, il n'y a pas 36 000 vérités. Il n'y a pas autant de vérités que d'hommes. Parce que moi, je n'ai pas la vérité. Je suis témoin de la vérité. Mais nous cherchons ensemble la vérité. Le drame d'aujourd'hui, c'est que comme... Chacun a sa vérité, il n'y a plus aucune discussion possible, puisqu'on ne cherche pas, à se mettre d'accord sur... on cherche à se mettre d'accord seulement sur un consensus, et le consensus, il va être obtenu par la loi du plus fort, comme toujours, c'est le plus fort qui va dominer, qui va... Puis le troisième renversement, c'est le renversement de l'amour. Au lieu d'être donné, d'être vers toi, j'ai cherché à utiliser, à jouir par toi. J'ai cherché la jouissance au lieu de chercher le don. Et au lieu que la joie soit la conséquence du don, en cherchant la jouissance, j'ai tué le don et j'ai perdu la maîtrise du corps. Ça, c'est très, très fort, ça. La langue française, en plus, est très amusante parce qu'elle permet ce jeu de mots, mais en voulant faire l'amour, j'ai perdu l'amour. L'amour ne se fait pas. L'amour se reçoit pour s'échanger, pour s'exprimer, pour communiquer, pour communier. Mais le jour où je cherche à faire l'amour, forcément, je vais t'utiliser, ou avec soi-même, une espèce d'auto-érotisme qui se retourne sur lui-même, et du coup, j'ai perdu cette communion, j'ai perdu le face-à-face, j'ai perdu la... Et le corps est devenu l'ennemi, parce que le corps est devenu le tyran qui... Au lieu de dire j'exprime avec le corps, j'exprime par mon corps, je m'exprime pour dire l'amour, pour le langage d'amour... J'ai utilisé mon corps comme objet de jouissance. Aujourd'hui, les grandes idéologies qui disent et qui affirment que le sexe n'existe que par la jouissance. Et jusqu'à hier ou avant-hier, le rapporteur de la commission des lois là, au Parlement sur la PMA, il prône la procréation sans sexe. Texto, procréation sans sexe. Parce que le sexe est réservé à la jouissance. Le sexe n'a plus rien à voir avec la procréation. Ça va très très loin, ça. Ça va très très loin. Mais c'est dire à quel point il y a une espèce de perversion de tout ça. Et du coup, les trois péchés, les trois formes de péché, en réalité, c'est chaque fois un péché d'orgueil. Hein. C'est l'homme qui veut s'exalter, qui veut prendre la place de Dieu. Les trois formes de péché retombent sur l'homme et rendent ces trois actes pénibles. Au lieu que le travail soit une joie et un épanouissement, il est devenu une peine et quelque chose de difficile. Au lieu que la connaissance soit pour la joie de la vérité, la joie de la connaissance de la vérité, la connaissance, elle est devenue un instrument au service de l'exploitation, au service du rendement. Et puis, l'amour, au lieu que l'amour me rende joyeux parce que je suis donné, nous sommes dans la communion d'amour, eh bien, la recherche de la domination sur l'autre fait que l'amour est devenu triste. Comment se fait-il ? Moi, je pose la question. C'est toujours une énigme. Et quand on réfléchit avec des jeunes, c'est très caractéristique. Par un chemin, on montre à quel point la vie est belle. Et par un autre chemin, on dit, mais comment ça se fait qu'elle soit si dure ? Comment ça se fait que la vie si belle soit si dure ? Comment ça se fait que l'amour, qui est si beau et qui est le maximum, le sommet de l'activité humaine, comment ça se fait que l'amour soit devenu si dur, si difficile et tellement source de souffrance ? Rien ne fait souffrir comme l'amour. Comment se fait-il? Comment le travail qui est si beau dans sa réalité profonde et qui épanouit une personne, comment se fait-il que le travail soit devenu si difficile, si douloureux? Et aujourd'hui, on sait de quoi on parle. Hein. Et donc, il faut vraiment méditer ça longtemps et bien comprendre que le travail est antérieur au péché, parce que c'est par là que l'homme commence à ressembler à Dieu, mais c'est la peine du péché, c'est la peine du péché qui est la peine, la pénibilité du travail est entrée dans le monde à cause du péché. Aujourd'hui, enfin, c'est une grande tentation de notre monde et de nos gouvernements, enfin, de nos manières de regarder le travail. On regarde le travail d'abord sous son aspect de pénibilité. Et on fait un ministère des loisirs pour essayer de se dégager. L'idéal de l'homme moderne, c'est de ne plus travailler. Et c'est une catastrophe, parce que l'homme qui ne travaille plus, c'est un homme qui est diminué, qui est amputé, c'est d'une dimension essentielle, puisque c'est par là qu'il ressemble à Dieu. Et la joie, enfin, je pense que nous autres, j'espère que nous avons eu la joie du travail bien fait, la joie du travail où on s'accomplit, où on se dépense, où on se développe. Mais c'est toujours à travers une certaine peine. Voilà pour ma première partie. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais dans les trois domaines où Dieu avait confié à l'homme la réalité de sa création, dans les trois domaines, j'ai perdu la maîtrise. Et retrouver la maîtrise, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Alors les peines du travail en particulier, on a essayé de les énumérer, de les citer dans cette prière à notre âme du travail. Je les reprends simplement pour les... Je vous offre hein, les appels et les tourments des personnes blessées ou épuisées par le travail, personnes humiliées, ignorées, rejetées ou désespérées, qui sont accablées par un travail dégradant, qui sont victimes de mépris ou d'injustice. Le travail est devenu source de douleur, source de pénibilité, source de... Alors, tout travail, même ceux qui sont très épanouissants, sont devenus des travaux fatigants. Mais à la limite, si c'est une bonne fatigue, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je me suis bien dépensé, c'est une bonne fatigue, je vais bien dormir ce soir. Bon, ce serait mieux si je n'étais pas fatigué. Enfin, je ne sais pas, moi, je rêve du jour où je ne serai plus fatigué. Mais ça, ce sera au ciel, hein, ce sera dans l'accomplissement au final. Mais il y a une certaine fatigue qui est une bonne fatigue parce qu'elle elle accompagne un véritable épanouissement, quelque chose qui me grandit, qui me développe. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de dessins. On voit tellement, tellement, tellement de souffrances et de peines dues au travail que ça en devient réellement inquiétant. Je pense pas que ce soit l'objet d'une conférence comme celle-ci de faire un catalogue de toutes les souffrances. Mais j'en relève quand même quelques-unes qui sont particulières. Le manque de sens. Travail qui n'a plus de sens. Ça, c'est une souffrance terrible. Je fais un travail, mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Soit un travail qui soit répétitif. Et que le travail, ce qui caractérise le travail, c'est que je crée des formes nouvelles. J'invente des choses. Je progresse dans la connaissance de quelque chose. Mais un travail qui est tellement répétitif, vous voyez, maintenant le travail à la chaîne, ce n'est plus tellement le cas parce qu'il y a des machines qui font. Mais même la personne au bord d'un grand magasin là, qui fait bip, 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 bip. Bon, alors elle peut dire bonjour madame, au revoir madame, ce qui est déjà pas mal. Mais quand même, c'est puis il y a des travaux dans des bureaux où vous savez ça mieux que moi parce que vous êtes plus dans le monde professionnel que moi. Mais le travail dégradant parce qu'il n'a plus de sens. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça sert. Je compte des trucs, je compte des papiers, j'empile des papiers, je trie des trucs qu'on va jeter après. Il y a vraiment des travaux qui sont... Il y a mille manières de perdre le sens. Plus je m'éloigne de la réalité du travail fini, mais alors là, je laisserai parler les gens qui sont beaucoup plus compétents que moi en la matière, hein, des gens qui ont travaillé beaucoup la doctrine sociale de l'Église, etc. Mais plus je m'éloigne du travail fini, plus je suis dans un espèce de petit chaînon invisible, plus je perds le sens du travail que je suis en train de réaliser. Et ça peut être terrible. Alors, en fait, on dit aujourd'hui un technicien de surface qui fait le ménage, par exemple, il voit le travail qu'il réalise et ça a du sens, vraiment. Donc ce n'est pas lié au niveau d'études du tout. Il peut y avoir des personnes qui n'ont aucune formation d'études, mais qui voient réellement le fruit de leur travail, qui a un sens. On peut voir des gens qui ont un très haut niveau d'études, mais qui finalement font des travaux dégradants parce que ce sont des travaux qui n'ont aucun sens. Qui ne donnent rien, qui ne font rien, qui ne produisent rien. Produire, il faut se méfier du mot, mais qui n'ont pas de fécondité. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est le manque de reconnaissance dans le travail. Ça, c'est quand même une des grandes souffrances au travail, le manque de reconnaissance. Je fais un travail, jamais un merci, jamais une considération humaine. Le travail est déshumanisé. Je travaille pour une machine, et quelquefois c'est mon patron lui-même qui est une machine, au service d'une autre machine, etc. Il y a une espèce ça, c'est une très très grande souffrance au travail, parce que je fasse bien ou que je fasse mal, tout le monde s'en fout. Mais le travail est toujours plus dur, il y a toujours plus. Il y a une somme de travail toujours plus grande, mais qui au fond, non seulement n'a pas de sens, ou très peu, mais qui en plus n'est pas humainement reconnue. Alors, il y a une espèce de... Moi-même, je n'ai plus de sens. Moi-même, je n'existe plus. Moi-même, je disparais derrière un travail qui est extrêmement pénible. La souffrance grave qui consiste à ne pas pouvoir vivre de son travail. Ça, on a ça très très grandement aujourd'hui. Je pense à un agriculteur que je connais qui me dit, tu vois, moi je perdrais moins d'argent si je mettais le lait à la mare en ce moment. Vous voyez, des gens qui travaillent toute la journée, qui travaillent dur, et qui en fait vivent de subventions, qui vivent de la charité publique, qui n'est pas une charité, mais qui est une espèce de redistribution, mais qui ne voient jamais le fruit de leur travail, parce que le fruit de leur travail n'a aucune valeur, quoi, aucune valeur marchande. Et ça, c'est affreusement dégradant pour eux. C'est terriblement douloureux pour quelqu'un. Une mauvaise ambiance, et encore une autre dimension, un esprit déplorable dans les conditions de travail. Les gens qui se tirent dans les pneus, qui des jalousies, des rivalités, des espèces de... Enfin bref, il y aurait beaucoup à dire. Je n'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif là-dedans. Je relève les choses auxquelles j'ai pensé. Mais l'atmosphère dans laquelle je travaille, une atmosphère de paix ou une atmosphère de rivalité permanente, c'est quand même très, très... ça influe énormément sur la pénibilité de mon travail. Je relève encore un truc qui est très actuel, mais qui est une source de grande souffrance, les disproportions dans les disproportions qui deviennent folles dans les salaires ou dans les rémunérations. À travail fourni égal, bien sûr, le niveau d'études n'est pas égal, le niveau de responsabilité n'est pas égal, mais il y a une espèce d'injustice à certains moments qui devient délirante et qui est un sujet de vraie souffrance, déshumanisation. Et puis, quelque chose qui est très fréquent aussi aujourd'hui, qu'on voit partout, c'est le trop de travail, l'excès de travail. On est débordé par le travail, on est débordé par une espèce de masse de travail de laquelle on n'émerge plus et dans laquelle peu à peu on se sent noyé, enlisé, comme les sables mouvants. Et plus je bouge, plus je suis enlisé. Et une espèce d'angoisse terrible de pas voir d'issue dans tout ça. Je veux pas faire de politique ici parce que c'est pas le lieu ni l'objet, mais je pense que ce que nous connaissons en France actuellement de la crise des Gilets jaunes est une manifestation très, à mon sens, très très grave de cette réalité. Et j'ai le pressentiment que ça peut très mal finir. Enfin, parce que ça révèle une fracture effrayante où presque toutes ces dimensions-là sont réunies. Et quand, pour seule réponse, encore une fois, je ne veux pas faire de polémique du tout, parce que ce n'est pas du tout le but. Mais quand même, je reprends la parole d'ailleurs de certains évêques dans ce domaine, mais quand la seule réponse c'est il faut faire des efforts et on n'a rien sans effort, et qu'on s'adresse à des gens qui précisément font des efforts du soir au matin et du matin au soir, eh ben, il y a une espèce de colère qui grandit et qui monte et qui n'est jamais bonne conseillère. Au fond, le drame... Alors, il y a deux tentations dans ces blessures et dans ces souffrances. Il y a deux grandes tentations, c'est se noyer dans le travail. Parce que vous savez, quand il y a une angoisse, il y a une espèce de boulimie du travail pour essayer de ne plus penser à rien, quoi. Une espèce de... on en connaît beaucoup, des gens comme ça, qui se noient dans le travail, puis un jour ou l'autre, pouf, ça explose, il y a des petits morceaux partout. Ou bien des gens qui fuient le travail, qui sont systématiquement en arrêt de maladie, ou qui sont... on ne peut pas... Enfin, on ne peut pas juger de l'extérieur, parce qu'il y a réellement des gens qui souffrent tellement qu'ils sont devenus inaptes au travail, ils sont devenus incapables de travailler, ils sont devenus... Et je dis ça très gravement, parce que ce sont des souffrances qui sont très, très, très fortes. Au fond, les conséquences du péché, si on regarde de près, c'est que on est dominé par la tyrannie du rendement et de l'efficacité. Et cette tyrannie est dominée elle-même par la loi du plus fort. Je dis ça constamment, parce que pour moi c'est devenu un leitmotiv, mais comme une évidence, un monde sans Dieu, un monde où j'ai perdu le sens de Dieu parce que j'ai perdu le sens de ma ressemblance à Dieu. J'ai perdu le sens de ma propre existence. Un monde sans Dieu est un monde qui est voué à la loi du plus fort. Je ne vois pas ce qui pourrait éviter la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, elle est effroyable parce qu'elle est mortifère. Je lis souvent ici le deuxième chapitre du livre de la sagesse, qui est incroyablement éloquent. À l'œuvre donc, jouissons des biens véritables, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse, enivrons-nous de vins exquis et de parfums, ne laissons point passer la fleur du printemps, courons-nous de roses avant qu'elles ne se fanent, qu'aucun de nous ne manque à notre orgie, il y a une espèce d'obligation que tout le monde... Qu'aucun de nous ne manque à notre orgie, laissons partout des signes de notre liesse, telle est notre part, telle est notre lot, c'est la fatalité, c'est notre destin. Opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d'années du vieillard, que notre force soit la loi du plus fort, car ce qui est faible s'avère inutile. C'est incroyable ça quand même. C'est QFD, enfin, on voit ça tout le temps, hein. Traquons le juste parce qu'il nous gêne et qu'il s'élève contre notre conduite, il nous reproche nos manquements à la loi, il nous accuse de trahir notre vie, etc., etc. Ce qui est faible s'avère inutile, il faut l'éliminer. Et on a la description très exacte de cette situation, au fond, dans l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Et le peuple hébreu, qui était fort et puissant, finalement, Pharaon, qui a peur de perdre sa domination, et Pharaon va imposer un esclavage aux Hébreux, on tue systématiquement tous les garçons, les enfants mâles, pour empêcher le peuple de se développer, on a tué la fécondité et on leur fait fabriquer des briques pour construire des monuments à la gloire de Pharaon. C'est, c'est, Au fond, c'est très très éloquent sur la réalité de notre monde, perdu dans la tyrannie de l'efficacité et du rendement sous la conduite de la loi du plus fort. Et au fond, quand Dieu va délivrer son peuple d'Égypte, il va lui faire passer la mer rouge à pied sec, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup à en tirer sur cette situation où on a tué la fécondité et on s'est enfermé dans le souci d'efficacité et de rendement. Et le travail a perdu. Le travail est devenu non seulement le travail, mais toute la réalité humaine est devenue pénible. Alors c'est là, troisième partie, c'est là qu'intervient Notre-Dame. Enfin, c'est là que ça m'intéresse de savoir ce que la Sainte Vierge nous apporte là-dedans. Qu'est-ce que la Vierge a à faire avec tout ça ? Le cœur, le noyau central, le noyau nucléaire de la spiritualité de notre âme du travail, c'est l'offrande du travail. C'est l'offrande du travail et de son fruit. C'est la gratuité dans le travail. Et ça, ce sera essentiellement la prochaine fois qu'on verra ça avec l'Eucharistie. Enfin, la dernière fois, la conférence numéro 9. Parce que c'est l'Eucharistie qui va vraiment donner son sens au travail. Et l'Eucharistie, bon, je ne veux pas anticiper, mais c'est l'offrande dans l'Eucharistie qui va donner tout son sens à la réalité du travail. Et la Vierge Marie est celle qui nous apprend cette gratuité et cette offrande. Ça m'a frappé, je raconte ça beaucoup en ce moment, mais parce que ça m'a beaucoup touché. Je fréquente pas mal les infirmières en ce moment, pour des bonnes raisons, hein, pour des raisons très, très louables. Douloureuses et louables. Et une infirmière, je lui donne ma carte vitale et elle me dit « Ah non, mon père, il n'y a pas question. Je n'ai jamais fait payer un prêtre de ma vie, je n'ai pas commencé aujourd'hui. » Et alors je lui dis « Mais vous allez être payé et moi, je serai remboursé parce que c'est un peu idiot. »« Ah, mais ce n'est pas pareil. » Et j'ai beaucoup apprécié. Et elle, on a continué à parler, elle me dit « Mais je m'oblige, enfin, c'est un principe. » Au moins 3 ou 4 fois par semaine, je veux faire des actes gratuits et absolument gratuits pour ne jamais perdre la gratuité de mon travail. Heureuse femme, et ça c'est beau, hein. Je trouve ça extraordinaire, moi. Je trouve ça très très beau. Ça c'est la Sainte Vierge qui nous apprend à faire ça, c'est la certitude. Au fond, on ne sait rien de la... de concret de la vie à Nazareth, de la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Mais j'aime beaucoup méditer sur cette Sainte Famille à Nazareth. Joseph le charpentier, il a un travail rude, comme tous les travaux, et un travail difficile, pénible, enfin, qui est en même temps très beau, parce qu'il construit des choses, il fabrique des choses, il construit des maisons, et sans doute, d'après beaucoup d'exégètes, c'est un, dans un tout petit village comme Nazareth, c'est un homme important, parce que c'est lui qui construit les charpentes, les maisons, Jésus a travaillé avec son père, mais je ne vois pas comment Joseph n'est pas rentré de temps en temps le soir à la maison, fatigué, crevé. Il a fait sa tournée, il a été construire une maison dans le village d'à côté, il a porté une commande je ne sais pas où, il rentre. Et puis j'imagine que Joseph... Enfin, il n'y a aucune raison de penser que Joseph a été épargné par les difficultés du métier, les difficultés économiques, les impôts qu'il faut donner aux Romains, jusqu'à l'édit de César qui les oblige à aller jusqu'à Bethléem alors qu'on est à Nazareth et qu'on n'a pas besoin de... Enfin, ça va nous faire des semaines de chômage et de... Il y a quand même des soucis, les difficultés du métier quotidien. J'aime contempler Marie qui sourit à Joseph qui rentre le soir chez lui. Heureux Joseph qui a une Vierge Marie qui l'attend et qui lui sourit le soir et qui l'accueille. Je trouve que j'aime énormément regarder cette rentrer le soir fatigué, usé, quelquefois épuisé. Et je regarde la Vierge Marie qui me sourit, comme elle sourit à Joseph. Et c'est un sourire qui ne dit rien. Mais quand on ne dit rien, on dit encore plus que quand on dit. Le silence est très très éloquent. Il dit beaucoup beaucoup de choses. Et il dit ce sourire redonne sens à tout ce que je fais. Ce sourire me remet dans la paix. Ce sourire me redonne le. Parce que ce sourire me donne du sens à ce que je fais parce que je le fais par amour. Vous voyez, quand je me couche usé, fatigué, et que je n'ai pas regardé la Vierge Marie sourire, mon travail, et d'ailleurs je dors mal, parce que le travail n'a pas été le soir offert dans cette communion, il n'a pas été le soir remis dans cette présence. Alors que si, fatigué, peut-être soucieux, peut-être anxieux, parce que j'ai quelque chose qui me pèse, qui est encore à faire et à finir demain, mais son sourire me refait comme si j'étais un enfant. Ce sourire me rétablit dans cette confiance profonde. Elle me rétablit dans le travail qui a du sens. Son seul sourire donne du sens à mon travail. Et je trouve ça très très beau. Je trouve ça... Marie a été donnée à Joseph. Joseph a été donné à Marie pour la protéger, pour lui donner la nourriture, pour lui donner la protection de sa responsabilité. Mais Marie est donnée à Joseph. J'ai beaucoup dit ici, de toutes ces années, mais je le redis là, ici. Quand je regarde Joseph, je regarde le modèle du travailleur, de celui qui travaille. Quand je regarde la Vierge Marie, je regarde comment Marie habite mon travail et donne du sens à mon travail et donne son épanouissement à mon travail. J'ai pas travaillé pour rien puisque la Vierge Marie sourit et qu'elle m'apaise et qu'elle me console et qu'elle m'encourage. Donc même le travail le plus pénible, même les difficultés les plus grandes sont dissoutes dans ce sourire. J'ai une mère de famille maintenant, elle est mère de famille depuis longtemps. Mais c'est moi qui ai béni son mariage, et elle m'a avoué, quelques années après son mariage, je ne sais pas combien d'années, elle m'a avoué que chaque soir, elle avait pris la décision, le jour de son mariage, d'accueillir chaque soir son mari par un sourire. Je trouve ça extraordinaire. Et elle me dit, quand j'entends les clés dans la maison, dans la porte, ou même quand j'entends sa voiture, quelquefois je file à la salle de bain pour refaire mon visage, parce que je veux l'accueillir avec un sourire. Heureux homme qui a ce sourire, qui l'accueille tous les soirs. Je trouve ça formidable. Vous voyez ? Et ça, la Sainte Vierge nous apprend à ça. La deuxième chose que la Vierge Marie m'apprend, c'est... Je regarde la Vierge Marie aux noces de Cana. Décidément, j'aime énormément ce passage des noces de Cana. Et vous m'avez sans doute entendu déjà commenter ce passage. Et les serviteurs qui apportent... qui vont apporter l'eau au maître du repas. Et je suis toujours médusé de l'obéissance incroyable des serviteurs qui font quelque chose qui est complètement idiot. Jésus leur dit « Remplissez d'eau les jarres, 600 litres. » Il faut le faire, hein, 600 litres. Allez, portez maintenant de l'eau au maître du repas. Et moi, je crois vraiment, je vais le redire dimanche prochain, parce qu'on va avoir le texte d'évangile dimanche prochain, je crois que je me serais mis en colère. Je déteste faire un travail idiot. Mais bon sang, mais c'est pas de l'eau qu'ils veulent, c'est du vin. De quoi je vais avoir l'air, moi, si je vais leur donner de l'eau? Vous voyez Je n'aime pas faire un travail qui est idiot et qui non seulement ne sert à rien, mais qui va me faire passer pour un imbécile. J'aime pas ça. Or, les serviteurs, il y en avait plusieurs, je ne sais pas combien, les serviteurs ont fait ce que Jésus leur disait. Pourquoi ? Parce que Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quelle autorité à la Vierge Marie ? Discrète, hein, on n'entend pas, on ne la voit pas, elle est d'une discrétion totale. Mais ce tout petit mot, faites tout ce qu'il vous dira, vaut tous les commandements que j'ai jamais reçus. Tous les ordres les plus... Je reçois un ordre d'un chef qui... Je reçois un commandement d'un général de guerre, je reçois... Quelquefois, j'ai quelqu'un que, que j'aime bien, et je vais le faire parce que j'ai confiance, mais souvent je reçois des ordres de gens que je n'aime pas ou qui n'ont aucune autorité et qui ont un grand pouvoir. Mais vous voyez, le flic me dit « faites ceci », je le fais parce que je suis bien obligé, mais je n'ai aucune joie à le faire. Et je le fais vraiment à contre-cœur. Et dès qu'il a le dos tourné, je fais le contraire. Non mais un président ou un ministre qui me dit une connerie, je n'ai aucun plaisir à le faire. Et je le fais par contrainte quelquefois, parce que je suis bien obligé. Mais ça augmente en moi la colère, en réalité. Plus j'ai confiance dans la personne qui commande, qui me dit quelque chose, plus je le fais avec joie et avec d'une façon qui me grandit. Quelle autorité est là, la Vierge Marie ? Quelle puissance est là dans ça ? C'est pas seulement une puissance de persuasion, c'est toujours son sourire qui est irrésistible. Quand on a vu Marie sourire, on peut pas résister. On peut pas ne pas faire ce qu'elle demande, parce qu'elle le dit avec cette petite voix. Elle le dit avec cette toute petite. Faites tout ce qu'il vous dira, faites-le avec tout comme ça, sans l'air de pas y toucher. Et les serviteurs sont bon. Ben elle a dit, et on fait. Et ils font bien, parce que quand ils vont servir l'eau, ils s'aperçoivent que c'est du vin. Et ça, je trouve que dans les blessures du travail, dans les souffrances du travail, c'est elle qui va redonner un travail, même un travail qui n'a pas de sens, ou un travail très douloureux, très difficile, très... quand le matin, en partant, j'entends la Vierge Marie qui me dit ça, qui me dit fais comme il a dit. Et il a dit qui ? Jésus, mais Jésus à travers même un patron véreux. Fais, et tu comprendras plus tard, et ça prendra son sens plus tard. L'offrande de ton travail aura du sens. Et petit à petit, je retrouve une... Je trouve que c'est très fort. Parce que ça donne une fécondité nouvelle. Et les serviteurs, concrètement, ils ont mis de l'eau et ils vont servir de l'eau. Ce qui par soi, n'a pas de fécondité. Mais parce qu'ils le font quand même, et 600 litres, il faut les porter, les baquets, pour remplir les 600 litres. Hein. Il n'y a pas d'eau courante. Hein. Et parce qu'ils le font quand même, ils découvrent une nouvelle fécondité au travail. Il y a quelque chose qui... On a travaillé, mais pas seulement pour le geste qu'on a fait, l'acte qu'on a accompli. Il y a une signification nouvelle qui a été donnée. Alors c'est le Christ qui la donne. Mais le conseil de la Vierge Marie vaut la présence. Je ne l'aurais jamais fait si Marie n'avait pas été là pour me le dire. Non seulement elle a signalé la chose à Jésus, mais ça c'est une autre affaire, c'est un autre commentaire. Non seulement elle signale à Jésus sans se mêler de ce qu'il doit faire, ça c'est son affaire, mais moi j'ai signalé, mais elle dit au serviteur d'un air très très sûr, mais d'un air de pas y toucher, faites comme il va vous dire. Et ça je trouve ça très fort, je trouve ça très beau. La troisième chose, évidemment, je vais regarder Marie à la croix, encore une fois, encore et encore et encore. Et je vais découvrir avec Marie à la croix une chose extraordinaire, c'est que la souffrance, et donc aussi la souffrance dans le travail, même cette souffrance-là peut prendre du sens. Toute souffrance par elle-même est absurde. La souffrance par elle-même, en elle-même, la souffrance, elle est négative, elle est un mal. La souffrance est un scandale, la souffrance est un mal. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, quand il vient sauver le monde, il ne supprime pas la souffrance. Si Jésus supprime la souffrance, Jésus supprime les conséquences du péché. Si je supprime les conséquences du péché, je supprime la responsabilité de l'homme dans son péché. Si je supprime la responsabilité de l'homme, je fais de l'homme quelqu'un qui n'est plus libre. J'en fais une marionnette. Quoi que tu fasses bien ou que tu fasses mal, ça fera le même effet. Tu peux tout faire, c'est pas grave. Tiens, mon chéri, une voiture. Pas, la voiture est cassée. Tiens, mon chéri, une autre voiture. Et la voiture est cassée. Tiens, encore une. Ben, vous faites des enfants gâtés. Vous faites des enfants qui ne sont jamais responsables. Vous faites des enfants qui n'auront jamais à porter les conséquences de leurs actes. Et donc, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont devenir des tyrans, ils vont devenir des... Donc, Jésus ne peut pas enlever la souffrance, l'éliminer. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va donner un sens à la souffrance par l'offrande de l'amour, par l'amour dans la souffrance. La souffrance prend un sens par l'amour qu'on y met. Alors lui, il va mettre l'amour jusqu'à la mort. L'amour maximum qui est l'offrande totale de lui-même. Je comprends les disciples d'Emmaüs qui restent sur ce scandale de la mort de Jésus. C'est complètement con. Il est mort à 33 ans, en pleine force de l'âge. Il avait un succès formidable. Il était capable de rassembler des peuples entiers. Il était... Et tout ça s'est terminé lamentablement, cloué sur le bois. Et ce qui n'est pas bien de sa part, c'est qu'il ne s'est même pas défendu. Il ne s'est même pas défendu. Il y a une espèce de scandale terrible. Parce que les disciples d'Emmaüs n'ont pas compris d'abord, mais c'est l'Esprit-Saint qui le leur révélera après, Jésus quand il va le rencontrer. Mais ils n'ont pas compris que cette mort de Jésus était une mort d'amour. Ils n'ont vu que le scandale de cette souffrance inutile, perdue, et qui a gâché une vie, et une vie en laquelle on avait mis tous les espoirs. Jésus va donner un sens profond à la souffrance par l'amour qu'il va y mettre, c'est-à-dire qu'en offrant cette souffrance par amour pour les pécheurs et par amour de son Père d'abord, cette souffrance prend un sens parce qu'elle est la manifestation de cet amour. Elle est l'expression de cet amour. Il nous a aimés jusque-là. Il m'a aimé, moi, jusque-là. Et où la Vierge Marie intervient-elle? C'est qu'elle accompagne Jésus dans cette offrande. Et toi-même, disait Siméon autrefois, vous rappelez à la présentation, toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Et c'est pour ça qu'on commence la prière de ce jour par ça, par là. Dans la nuit du calvaire, au maire s'accomplit la prophétie de Siméon. Debout au pied de la croix, vous ne pleurez pas sur vous, mais sur votre fils qui porte le poids du péché des hommes, et toutes les violences du monde sont dissoutes dans vos deux cœurs transpercés. Il y a un cœur qui est transpercé par un glaive des Romains, l'autre cœur est transpercé par un glaive mystique, un glaive de... C'est une femme théologienne, Adrienne von Speyer, qui a écrit une phrase extraordinaire. La Vierge Marie n'est pas victorieuse l'épée à la main, la Vierge Marie est victorieuse l'épée dans le cœur. C'est fort ça, hein, je trouve ça très très beau. La victoire, non pas l'épée à la main, la victoire l'épée dans le cœur. Parce que son cœur est transpercé en même temps que celui de son fils. Transpercé, ça veut dire qu'elle porte avec Jésus la souffrance du monde. Elle porte avec Jésus ma souffrance. Et donc le poids... Et d'ailleurs, l'offrande de Jésus sur la croix, c'est ce qu'il appelle son travail, son œuvre. Quand il va mourir, le dernier mot qu'il dit, tout est accompli. J'ai accompli l'œuvre que Dieu, que le Père m'avait donné à faire. Donc son heure, ce qu'il appelle son heure depuis longtemps, dans l'évangile de Saint Jean... Ce qu'il appelle aussi l'œuvre que le Père lui a donné à faire, c'est-à-dire le travail qu'il lui a donné à faire, son travail, c'est d'offrir sa vie. Et d'offrir sa vie par la souffrance. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que la souffrance du travail, qui est la peine du péché, et qui est une peine, par conséquent, par elle-même absurde, peut prendre un sens parce qu'elle est offerte dans l'offrande de Jésus. Et je dis ça parce que on rêve notre monde aujourd'hui, et même nous, enfin peut-être vous pas, mais moi en tout cas, je rêve régulièrement d'un travail qui ne serait plus pénible. Je rêve d'un travail, je serais délivré de toute peine, je serais délivré de toute souffrance. Et en fait, ça n'arrive jamais. Donc je souffre d'être déçu de ce que ça n'arrive jamais. Donc il y a une espèce d'angoisse au carré, il y a une espèce de désespoir de constater que la souffrance me résiste. Et la souffrance me résistera tant que je n'accepterai pas d'entrer dans cette souffrance, dans un geste d'offrande. Et ça, c'est pas seulement vrai pour le travail salarié. À travers les différentes journées de la neuvaine, on le découvre. C'est vrai dans le travail de l'enfantement, c'est vrai dans le travail des retraités, c'est vrai dans le travail salarié, c'est vrai dans toutes les formes de travail. Toute forme de travail est pénible. Faire des études, c'est difficile, c'est pénible de passer des examens, des concours. Mais si j'offre cette réalité dans la souffrance de Jésus, alors tout prend un sens. Tout prend un sens. Et Jésus a demandé à la Vierge Marie de rester près de lui parce qu'il avait besoin d'elle pour accomplir ce travail. Il a besoin de sa mère, il a besoin d'associer sa mère à son œuvre. Au fond, et je vais conclure avec ça, quand je regarde la Vierge Marie, il y a deux aspects, toujours. Ce que la Vierge Marie m'apporte à moi, par son sourire, par son encouragement, par son conseil, faites tout ce qu'il vous dira, par sa présence dans ma souffrance, etc. Mais la Vierge Marie m'apaise, me redonne du sens, me conduit. Et du coup, deuxième aspect, moi, si je veux être fidèle à cette spiritualité dans le train du travail, je peux, à l'image de la Vierge Marie, être cette présence auprès de mes proches, auprès de mes collègues de travail, auprès de mes enfants, auprès de mes parents, auprès de mes amis. Est-ce que je souris, est-ce que j'apprends de la Vierge Marie à sourire à la personne qui rentre fatiguée le soir? Est-ce que j'apprends de la Vierge Marie à donner ce conseil, fais comme il t'a dit? Fais tout ce qu'il dira. Est-ce que j'apprends de la Vierge Marie à souffrir à côté de celui qui souffre? Je ne peux rien faire. Je ne peux pas résoudre cette souffrance. Je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas l'anéantir. La Vierge Marie, au pied de la croix, peut-être que sa souffrance la plus grande, c'est qu'elle est totalement inefficace. Elle ne peut rien faire d'autre que de souffrir avec. Et c'est terrible d'être à côté de quelqu'un qui souffre sans pouvoir rien faire. Je ne peux pas enlever cette souffrance, je ne peux pas la dissoudre, je peux la porter avec. Et alors, là, je pense que le sanctuaire de Notre-Dame du Travail, et donc la paroisse de Notre-Dame du Travail, a un véritable rôle à jouer, une véritable mission auprès du monde du travail. Et pour eux, je pense que c'est beau d'envisager ça comme ça. Est-ce que notre paroisse est un sourire de la Vierge Marie pour les gens qui travaillent et pour les gens qui travaillent rudement, qui sont fatigués? Est-ce que notre paroisse est pour le monde du travail qui vient en pèlerinage à Notre-Dame du Travail? Est-ce que notre paroisse est un comme ce conseil, faites tout ce qu'il vous dira, parce que nous-mêmes nous accomplissons ce qu'il nous dit, comme un modèle, comme un exemple, comme des personnes qui anticipent ce que Jésus demande? Est-ce que notre paroisse est pour le monde du travail, du monde si douloureux, le monde souffrant, le monde quelquefois crucifié, est-ce que notre paroisse est une présence de compassion où nous acceptons nous-mêmes de souffrir des souffrances qui n'ont pas beaucoup de sens et qui n'ont même pas du tout de sens si elles ne sont pas portées pour le monde? Vous voyez, il y a des souffrances qu'on porte qui quelquefois sont révoltantes, et peut-être que dans la paroisse, la Vierge Marie pourrait nous apprendre à porter même ces souffrances-là, en les portant ensemble dans la communion fraternelle, la communion d'âme de la paroisse, dans cet esprit familial que la Vierge Marie nous donne, pour être, pour le monde qui ne connaît pas Dieu, pour les gens qui souffrent, un encouragement, une présence, une... Alors, la dernière phrase de la prière de la neuvaine, Vierge puissante, apaiser les conflits et les tensions du monde du travail. Je pense que notre âme du travail nous apprend à nous-mêmes, et donc elle nous apprend à transmettre cette paix, cette paix recouvrée, cette attention au bien commun, et puis notre ami travaille au Cénacle qui apprend aux apôtres, mais ça c'était plutôt la conférence d'avant sur le travail à la vigne du Seigneur, mais pour accueillir l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses, qui recrée toutes choses nouvelles. Voilà mes pensées du jour. Si c'était intéressant, c'est ce que j'ai cherché à faire. Si c'était pas terrible, c'est tout ce que j'ai pu faire. C'est de qui ? C'est du livre des Maccabées. La conclusion du livre des Maccabées, je trouve ça magnifique. Vous ne connaissez pas la conclusion du deuxième livre des Maccabées. Je cite ça souvent parce que je trouve ça absolument formidable. C'est la parole de Dieu. Hein. Je vous lis cette conclusion qui est absolument formidable. Quoi ? Ah oui, je ne cite que là. Je prends mes sources dans la parole de Dieu, moi. Ainsi se passèrent les choses concernant Nicanor, et comme depuis ce temps-là, la ville demeura en possession des Hébreux, je finirai également mon ouvrage ici même. Un peu en poulet le style, hein, mais... Si la composition en est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. A-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité ? C'est tout ce que j'ai pu faire. Je trouve ça génial. C'est la parole de Dieu, je trouve ça magnifique. Et comme il est nuisible de boire seulement du vin ou seulement de l'eau, tandis que le vin mêlé à l'eau est agréable et produit une délicieuse jouissance, de même, c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent l'histoire. C'est donc ici que j'y mettrai fin. Voilà. Je suis prêt à répondre à des questions. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre, mais je suis en tout cas sûr de ne pas les esquiver. Et peut-être, s'il y a des questions, j'y réfléchirai pour pouvoir y répondre un autre jour, mais... Mathilde.
Moi, par rapport aux noces de Cana.
Oui.
J'ai pas bien compris. Dans les souffrances du travail, de faire, et tu comprendras plus tard. L'offrande de ton travail aura du sens. C'est un peu la même chose qu'au pied de la croix.
Oui. Oui, sauf que la souffrance, elle est au pied de la croix, c'est la souffrance maximum de quelque chose qui est une vie brûlée, une vie offerte. En fait, c'est toujours dans le même sens, hein, que ça va. Mais je fais de temps en temps des choses. Moi, je dois dire que quand j'ai fait des maths en maths sup et en maths spé, je détestais les maths. Bon, mais c'est la Vierge Marie, même déjà à ce moment-là, qui m'a fait comprendre que ça me permettrait d'être officier de marine un jour, et ça valait le coup. L'eau s'est changée en... L'eau idiote, le marin déteste l'eau, hein. C'est changé en vin de la joie de l'officier. Enfin bon, peut-être que je glose un peu, mais ça vous paraît idiot ce que je dis, ou... C'est-à-dire que j'ai fait dans ma vie des choses dont je ne comprenais pas du tout le sens, mais j'ai compris, à vrai dire, c'est plutôt plus tard dans ma vie que j'ai compris que c'était la Vierge Marie qui me donnait ce conseil. Oui, mais fais-le, tu comprendras plus tard. Et de fait, j'ai vu plus tard que ce que j'avais fait, à quoi je ne voyais pas de sens à ce moment-là, j'ai reconnu que c'est le Christ qui me le demandait, et qu'en le faisant, je préparais des fruits pour plus tard. Non, ça va ?
Et vous parlez du sourire de la Vierge Marie.
Ah oui.
Mais on le trouve ça dans la Bible ?
Vous le voyez ?
Le sourire de la Vierge Marie.
Il est dans votre cœur. Ouais. Vierge Marie qui sourit à son enfant quand elle lui donne le sein, la Vierge Marie qui sourit à Joseph. Non, on parle dans le Cantique des Cantiques, on pourrait voir le sourire, ouais. ton sourire dans les descriptions du Cantique des Cantiques, c'est formidable. Mais le sourire de la Vierge Marie, moi, j'ai jamais vu la Sainte Vierge. Hein. Mais je la vois comme si je la connaissais, bien sûr.
Il y a peut-être aussi le regard.
Le regard, le sourire et le regard. Il n'y a pas de sourire sans regard. Hein. Oui. Même pour un aveugle, il n'y a pas de sourire sans regard. Mm-hmm. Oui. Ou on peut retourner la chose en disant il n'y a pas de regard sans sourire. Des regards sans sourire, c'est un regard froid qui sont... C'est plus un regard humain. C'est un regard glacé. Le démon ne sourit jamais. C'est le regard glacé de... Le mal ne connaît pas le sourire.
On peut penser que c'est très grave, et de parler du sourire, c'est...
Ah ben c'est très grave le sourire, enfin, c'est la plus grande charité, hein. C'est la première charité, mais elle est très importante. Donner son sourire à son entourage, c'est une charité extraordinaire. C'est quelque chose qui est formidable et qu'on peut toujours faire.
Oui, mais la notion du sourire, on va la chercher où
La notion du sourire, c'est l'expression de l'amour sur le visage de quelqu'un. L'expression de l'amour. La Vierge Marie est comblée de grâce, donc elle est... Comment ?
De l'accueil.
De l'accueil, c'est... Il y a...
Quand
il y a...
on sourit, on a le
visage qui se dilate. Ouais. Ouais.
On l'accueille.
Ouais. Là, tu me parlais des souffrances du travail.
Oui.
Et c'est vrai que moi, je trouve que tout dans la Bible, c'est assez triste, finalement.
Oh, il n'y a pas que des tristesses dans la Bible.
C'est pour ça.
Il y a aussi des grandes joies dans la Bible, dis donc.
Le... Fait des miracles.
Oui, ou la visitation, ou la résurrection, c'est plutôt joyeux. Il y a des grandes joies dans la Bible. Même l'Annonciation, c'est quand même très joyeux. Même si c'est les mystères joyeux, c'est quand même les mystères qui sont joyeux.
Oui, mais c'est les hommes qui ont fait ça.
Les hommes.
Cette prière, c'est les êtres humains.
Bah, oui, mais c'est la réalité de l'Évangile. C'est le mystère joyeux, c'est parce qu'on contemple la réalité joyeuse de l'Évangile. Très souvent, on dit, regardez les mages, par exemple, dimanche dernier, et en voyant l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.
Ah oui.
La joie, on en parle tout le temps, et la joie s'accompagne toujours de sourires. Donc si vous regardez Saint Ignace, il y a beaucoup de saints qui nous apprennent comme ça dans la prière, à regarder la scène, et vous regardez la crèche, vous regardez le sourire entre Marie et Joseph, le sourire de Marie qui accueille les mages, le sourire de Marie qui regarde Jésus, enfin, c'est formidable ça. Le sourire de l'âne qui regarde le bœuf. C'est... Hein ? Non, mais c'est vrai.
Alors, sans être exhaustif aussi, effectivement, sur les souffrances, il y a souvent aussi une souffrance. Je vais parler de l'absence de sens.
Absence de sens, oui.
C'est une souffrance. Il y a le sens inverse, qui est aussi une autre souffrance. C'est-à-dire, mon travail m'oblige à aller dans le sens inverse de ce que je crois, ce que je sens, ce qui me semble bon, et ce qui est au fond de mon cœur. Ça, c'est très, très, très compliqué. Ça, c'est les souffrances qui sont compliquées à dépasser. Le sourire n'y suffit pas vraiment. Là, c'est difficile. C'est souvent, des souffrances qu'on remarque. J'ai même un peu de plus en plus.
Ou même quelquefois, être obligé d'abandonner son travail parce qu'il a vraiment non seulement plus de sens mais un sens inverse.
Oui, mais
ce qu'il y a, c'est qu'avec l'angoisse de ne pas retrouver un autre travail. Et je pense qu'il y a une... Enfin, ça, ce serait un autre sujet où la Vierge Marie nous dira en fait tout ce qu'il nous dira, mais il y a certains domaines professionnels où je m'interroge sur le moment où je dis non, ça je ne le ferai pas. Parce que c'est pas seulement contre mon intelligence, mais c'est contre ma conscience. Comment ?
Oui,
contre le bien commun, contre. Oui, oui, oui.
De même, ça dépend, on ne peut pas dire les choses. Comment ? Certaines fois, on ne peut pas dire des injustices.
On ne peut pas dénoncer des injustices.
Il faut aller dans le sens.
On est témoin d'une injustice qu'on ne peut pas dénoncer. Je ne sais pas si on doit pouvoir trouver un espèce de catalogue de toutes les souffrances, mais c'est comme les tortures humaines, c'est sans fin, quoi. On peut toujours en trouver des nouvelles. Hein. Il y a trouver des grandes lignes, quand même, on doit pouvoir...
Et sur la notion du travail, je pensais aussi aux galériens.
Oui, mais là, ils vivaient une peine...
C'était un travail dur...
C'est un travail... C'est d'esclaves, hein. Puis c'était doublé d'une peine. C'était une certaine forme de d'enlever à l'homme sa dignité. Enfin, de. Mais c'est Saint Paul qui va prendre la place des. Enfin, qui va dans les galères lui-même prendre sa place parmi les galériens. C'est incroyable, ça. C'est la Vierge Marie qui va avec Jésus au pied de la croix.
Je reviens sur la mauvaise ambiance, la jalousie, la...
Oui.
C'est vrai, mais quand on vit... Dans Parcours d'Achet, à un moment, ils disent mettez l'Esprit Saint, ou mettez la Vierge, ou trouvez-vous un truc pour...
Un truc.
Pour
pas très gentil pour la Sainte Vierge. Ouais. Moi, j'ai un truc. Je me rappelle très bien ma classe de maths sup quand j'étais en étudiant. Enfin, j'étais pas vraiment étudiant, mais j'étais en prépa. Et je me souviens très bien, vers le mois d'octobre ou novembre, avoir été trouvé l'aumônier que j'aimais beaucoup et lui dire à mon père, c'est lamentable, on a une classe, une ambiance de merde, on a une ambiance nulle. Et il m'a engueulé. Il m'a dit, alors on était dans une classe prépa militaire, hein, mais il m'a dit, François, une ambiance ne se subit pas, elle se crée. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai commencé à noyauter avec deux, trois amis dans la classe. Et à dire, on va retourner le truc. Et de fait, on a réussi à retourner le truc en quelques semaines. Mais j'avais pas. Alors, je dis pas que c'est possible dans le bureau, hein, et dans toutes les circonstances, hein, parce que il y a des. Enfin, j'imagine bien qu'il y a des cas où on peut pas. Mais il y a. Je pense quand même que dans les pires situations, le sourire d'une personne au cœur d'un enfer illumine quand même l'atmosphère.
Mais il dérange d'abord.
Il dérange d'abord, mais il illumine. Enfin, il crée quand même il crée un renversement de quelque chose. Oui, il dérange, ça c'est vrai, c'est le livre de la sagesse. Hein. Il dérange beaucoup, mais je pense que on peut trouver des il faudrait réfléchir, là j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais des films qui disent ça, une présence souriante, il y a des saints qui sont des présences souriantes comme ça dans un enfer. Saint-Paul dans les galères, mais on pourrait trouver beaucoup d'autres choses, je pense. Le sourire d'un saint dans un enfer illumine Saint-Maximien Kolbe dans le bunker de la mort, où les témoins disaient que d'habitude, dans ces trucs-là, c'était des cris et des hurlements de sauvages, des gens qui se battaient même. Et que dans le cas où Maximilien Kolbe a été dans le bunker, ils ont entendu des chants et des cantiques tout le long jusqu'à la mort du dernier. Donc je pense que le sourire d'un seul. Alors bien sûr qu'on touche à l'héroïsme de la sainteté. Mais je pense que le sourire d'un seul. Je dis très souvent, parce que je le crois profondément, que le bon larron, ce qui a déclenché définitivement le bon larron, c'est de regarder le sourire de la Sainte Vierge. Le visage de la Sainte Vierge, illuminé par la souffrance, sa souffrance, mais qui est une souffrance lumineuse d'amour, a bouleversé le bon larron. Son cœur a craqué. Et le centurion aussi, d'ailleurs. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Et quelquefois, c'est après coup, hein, mais je ne vois pas autre chose. Oui, bien sûr, on peut peut-être aller trouver un supérieur, aller créer. Enfin, mais il y a des cas où on ne peut rien faire d'autre. Est-ce que j'ai suffisamment de force pour pouvoir être un sourire dans ce monde-là? Ça, je ne peux pas le mesurer à la place de la personne. Et il y a des cas où je serais obligé de dire à une personne, écoutez, il faut vous retirer, vous allez vous abîmer, vous allez vous esquinter. Et il ne faut pas culpabiliser parce qu'on ne peut pas le faire. Les forces humaines ont des limites. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre-Dame du travail, je vous offre mon travail, mes tâches quotidiennes, mes réussites. Je vous offre aussi mes échecs, mes attentes et mes peurs, mes espoirs et mes ambitions. À ceux qui ont un métier, donnez la joie du travail bien fait et celle d'un véritable épanouissement. À ceux qui sont accablés par un travail épuisant ou dégradant, à ceux qui cherchent un emploi, qui se sentent inutiles ou rejetés, donnez la confiance et la persévérance. À ceux qui portent les soucis de la responsabilité, qui travaillent dans l'angoisse du lendemain ou le découragement de la routine, à ceux qui fuient la réalité du quotidien, donnez le dynamisme de l'espérance. à celle qui porte le beau travail de l'enfantement. Donnez le rayonnement dans la joie de l'attente et la paix dans l'inquiétude. Soyez la consolation de celle à qui la vie semble se refuser. Notre-Dame du travail, ô notre Mère, donnez-nous la force et la docilité de Saint-Joseph. Donnez-nous la douceur et la bienveillance qui ouvrent les cœurs fermés. Apprenez-nous la pauvreté dans la richesse, la patience dans le dénuement. Donnez-nous le souci du pauvre et la tendresse pour le plus fragile. Que nos mains soient les vôtres pour encourager, réconforter, consoler, et notre cœur le vôtre pour partager, aimer et vivre la miséricorde. Amen. Notre-Dame du Travail, priez pour nous. Par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et tous les vôtres, et demeure à jamais.
Amen.
Amen.